Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotop, votre émission financée par BioVallée qui retrace les initiatives prises par des citoyens, des associations, des entreprises et des institutions pour faire en sorte que cette vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet tout à fait passionnant, à savoir la recréation éventuelle d'une filière textile et spécialement laine locale. Avec moi pour en parler, quatre personnes que je ne vais pas présenter car elles vont le faire eux-mêmes. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour,
alors moi je suis Véronique Charles. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Agités du Local, qui est un regroupement d'artisans. Donc moi je suis plus sur la transformation de la laine. Donc je produis des accessoires et des vêtements le plus possible à partir de toisons que je récupère chez les éleveurs au moment de la tonte. Et aussi, je transmets ces savoirs, des initiations, je fais de la démonstration et aussi des formations pour transmettre ces savoir-faire et ces techniques de transformation de la laine.
Bonjour, moi c'est Margot. Donc avec mon compagnon, on est installé sur une toute petite ferme en polyculture élevage où on élève des brebis mérinos pour la laine qu'on fait transformer en lien avec d'autres éleveurs. Et puis qu'on commercialise localement sous forme de pelotes, de fils et d'accessoires tricotés et tissés.
Bonjour, moi je suis Marie Marquet, je travaille sur les teintures végétales et du coup sur la teinture de la laine. J'ai envie de développer parmi mes activités de teinture à façon un travail qui permettrait de valoriser de la laine uniquement locale. Et par ailleurs, je m'intéresse à l'histoire du développement d'une filière textile qui soit un peu plus proche et un peu moins gigantesque, qui nous permette d'être en lien avec ce qu'on porte.
Et moi, c'est Vincent Ducomé. Je suis éleveur de brebis à Barnave, dans Diwa. Ces brebis, je les élève pour uniquement produire de la laine. Après avoir produit du fromage et de la viande pendant pas mal de temps, pour arriver à gagner ma vie avec cette production, je fais transformer ma matière par des façonniers, c'est-à-dire des gens qui font du travail à façon. Et donc ils me font du fil, et puis du tricot, du tissu, de la couture. Et moi, je revends les produits finis. Donc soit en temps de vente directe, soit dans des boutiques de dépôt-vente dans la région.
Bon, une fois que cette formalité est accomplie, nous pourrions passer d'abord à un petit décor historique, parce que qui dit création d'une filière laine locale, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il n'y en a plus. Qui serait capable de répondre à cette question un peu triste ?
Alors peut-être qu'on peut commencer par dire qu'une filière, en fait, c'est un ensemble d'outils qui permettent d'aller de l'élevage, de la tonte des brebis à la réalisation d'un produit fini. Donc en fait, il faut un certain nombre d'outils et un certain nombre d'acteurs pour que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'actuellement, en fait, la laine n'a pas de débouché. La laine qui localement est produite, elle n'est pas utilisée en grande partie ou elle est rachetée à très bas prix, ce qui ne permet pas de payer les vrais prix de ce qu'elle vaut. La laine doit être transformée, donc c'est déjà une volonté au niveau de l'élevage. À partir de l'élevage et jusqu'au moment où on va avoir un produit qu'on peut porter, il faut avoir un certain nombre d'acteurs et d'outils. Donc ici, on est dans un pays ovin, donc il y a une production de brebis, mais pas forcément une valorisation de la laine, puisqu'elle a été anciennement abandonnée au profit de la viande. Et du coup, c'est vrai que l'idée de cette valorisation repose sur l'idée de recréer un maillon entre les différents acteurs et d'avoir accès à des outils qui vont permettre donc après la tonte, de la laver, de la carder, et ensuite de la faire transformer soit en fil, soit en feutre, pour pouvoir ensuite en faire des vêtements. À ma connaissance, c'était pas forcément une filière qui était très développée ici, même si on peut imaginer qu'il y avait toujours eu une exploitation des ressources dont les gens disposaient, donc pour eux-mêmes et pour des petites productions de la matelasserie. Et en plus, on est dans une région où il y avait la soierie, donc qui a été très importante et qui a dû dominer tout ce qui est mise en place d'outils industriels au détriment de la laine.
Je crois qu'on manque un peu d'outils historiques pour savoir le détail. Ça mériterait d'être étudié, d'ailleurs. Moi, pour ce que je sais depuis le temps que je suis dans le Diwa, dans le milieu au vin, c'est que, effectivement, j'ai jamais entendu parler de grand-chose de très actif au niveau de la laine. Et si j'y réfléchis, je peux me dire que c'est peut-être pas un hasard parce que on est le berceau d'une des races ovines de France les plus délaînées qui soient. C'est la Préalpe du Sud. Le berceau de la race, c'est la région de Valdrome, Saune. C'est une race qui a fait sa réputation sur la qualité de ses agneaux, donc la qualité gustative et puis la forme aussi. Ce que les vieux éleveurs m'ont raconté, c'est que, en fait, l'élevage, autrefois dans le Diwa, c'était surtout des tout petits troupeaux, maximum une centaine de brebis, mais c'était souvent plutôt 10 ou 20. Alors, soit les troupeaux étaient gérés collectivement pour la pâture, soit c'était la grand-mère qui allait les garder dans un coin, mais donc ça fait des toutes petites quantités de laine. Et en plus, donc, c'est une race de brebis qui peut avoir parfois zéro laine, carrément, ou alors 500 grammes de laine, là où la brebis mérinos, qui était vraiment la productrice de laine, mais qu'on trouvait plutôt en Provence, fait 2 kilos de laine environ, quoi. Cette laine, elle est plutôt grossière et de pas très bonne qualité. Elle sert surtout au matelas et puis sans doute, effectivement, dans les fermes, on l'utilisait pour les besoins de la maison, quoi, pour un peu de tricot.
Moi, je voudrais juste compléter ce que dit Vincent, sans vouloir casser ton argumentaire. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une laine de mauvaise qualité. C'était une laine qui avait d'autres qualités que celles qu'on reconnaît à la laine mérinos, qui du coup a des fibres longues, mais un micronage très fin, et qui était la laine parfaite pour faire du fil, de la bonneterie, des accessoires un petit peu plus luxueux, et notamment du tricot, du tissage. La laine ici des Préalpes, donc c'est une laine, comme disait Vincent, très gonflante, et du coup qui est parfaitement adaptée à la matelasserie. Et en fait, apparemment, ce qu'on avait ici, c'était plutôt un usage domestique de la laine, où les fibres les plus courtes et gonflantes était réservé pour la matelasserie familiale, avec des matelassiers ambulants qui passaient, qui aidaient à refaire les matelas. Et après, les familles triaient la laine et réservaient des fibres un petit peu plus longues pour un peu de filage, avec lequel on faisait des chaussettes ou quelques accessoires tricotés pour la maison.
Quand on a parlé de filière laine, on a parlé qu'il y avait un certain nombre d'acteurs, tous indispensables et chacun dans son domaine. Et il se trouve que vous m'avez confirmé qu'il n'y en avait pas tous ici localement. Est-ce que vous pourriez, je répète la question, m'expliquer pourquoi cette filière laine, non seulement localement, mais aussi nationalement, a un petit peu disparu alors ?
À ma connaissance, en tout cas, c'est un vrai choix politique qui remonte à après la Deuxième Guerre, dans lequel la France a plutôt valorisé sa filière viande et a notamment apporté des subventions à cette filière et a soutenu donc la production de viande ovine. Et par contre, n'a pas valorisé la laine, alors qu'il y a d'autres pays comme par exemple l'Angleterre qui mutualise la collecte de la laine, même si à côté il y a un usage de la viande et que l'élevage est à destination de la viande en priorité, enfin en premier poste économique. Et du coup, cette collecte de la laine, cette mise en coopérative pour la récolte et la transformation a permis que ça se maintienne et qu'il y ait encore l'usage des laines qui sont produites en même temps que les bêtes. Alors que donc ici, ça s'est pas fait et donc on arrive à la situation actuelle qui est que donc on n'a pas de reconnaissance de cette matière première et on n'a pas non plus de manière locale les outils pour utiliser tout ça.
En Angleterre, il y avait un système avec des ventes aux enchères de l'eau de laine et cette organisation, elle a perduré. Bien que les laines anglaises, a priori, ne soient pas de très bonne qualité. Hein. Au point de vue de l'industrie lainière, c'est plutôt les laines grossières. Mais ce système par lot leur permettait de constituer des lots de valeurs différentes selon l'utilisation qu'il y en avait et donc de garder une valorisation assez conséquente. Alors que l'élevage français s'est organisé dans le ramassage de la laine, dans un système où on mélange tout. Le bon et le mauvais. Enfin, quand je parle de bon et de mauvais, moi, je veux pas mettre de critères de valeur. Et quand je dis bon et mauvais, c'est pour les acheteurs, en fait. Ceux qui achètent les grosses quantités de laine, ils aiment beaucoup le mérinos. et les laines fines, quoi. Disons que d'une manière générale, par exemple, la laine mérinos en France, elle était mélangée avec le reste aussi, quoi. Et donc, elle a perdu énormément de valeur. Comme elle a perdu énormément de valeur pour tous les éleveurs se sont beaucoup désintéressés, même au niveau des actions de récolte. Et donc, les laines françaises étaient réputées sales, mélangées avec de la paille, etc. Donc, médiocres.
Et juste ça, c'est à mettre en parallèle avec de l'autre côté de l'océan, en Nouvelle-Zélande, en Australie, le développement d'énormes troupeaux de mérinos sur des herbages avec une orientation lainière et du coup la création d'une production hyper homogène, hyper abondante qui en fait rentrait en concurrence directe avec les laines françaises qui ne faisait plus le poids, quoi, c'est le cas de le dire. Et donc, toute l'industrie, elle s'est délocalisée justement plus près de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en Chine, et puis ensuite, pour la confection, là où la main-d'œuvre n'est pas très chère, donc au Bangladesh, en Inde, où on peut assembler un habit pour 10 centimes.
Alors, à vous écouter, s'il n'y a pas de filière laine, c'est qu'il n'y a pas de matière première en France, mais n'y aurait-il pas aussi l'irruption de fibres artificielles qui aurait joué aussi un rôle dans sa disparition ?
En tout cas, c'est intéressant ce qu'a relevé Margot, parce qu'en fait, c'est très difficile l'exercice qu'on essaie de faire aujourd'hui, qui est de parler de quelque chose de que local, alors que justement, par définition, le textile, c'est la chose qui a été le plus tôt dans l'histoire à très grande échelle. Et en fait, les enjeux de ce qui se passe localement, ils sont toujours à chercher aussi dans une vision plus large. Et du coup, l'acétate et la production de fibres artificielles s'est développée à partir de la guerre de 14. Donc ici, localement, on avait de la soie qui était produite avec bon, des magnaneries, des moulinages et tout ça. Encore plus aussi en Ardèche. Mais enfin, bon, on était dans ce bassin lié à Lyon avec un produit de luxe. Et quand ça a décliné, notamment avec des maladies qui ont atteint les cocons, mais aussi après avec la guerre de 14, quand la soierie a perdu son importance, enfin la soie, elle a été remplacée par des matières artificielles, des acétates, etc. Et en fait, donc les outils sont restés en place et ils ont été recyclés, ils ont été tournés vers des nouvelles matières qui étaient issues de la chimie de synthèse et des nouvelles propositions en textile. Et ça explique peut-être aussi que du coup, on est resté sur des bassins qui étaient assez importants, qui étaient destinés à une production textile qui allait être valorisée à Lyon, avec anciennement avec la soie, et ensuite à une échelle plus large que localement. Et donc ça explique peut-être qu'il n'y ait pas eu un développement d'autres outils pour des choses plus locales.
On peut parler à plusieurs échelles. Il y a une échelle sans rien changer. On peut revitaliser une filière laine simplement en produisant correctement de la laine et en faisant quelque chose.
Comme toi.
Et d'autre part, on peut voir de manière plus globale que la consommation de laine générale augmente avec une consommation d'acrylique et de polyester qui diminue.
Good news.
Pourquoi pas ? Non, mais c'est à peu près la même vision que de dire, il y a 20 ans, dans les cantines, on mangera bio.
Ouais. Oui, oui, je suis d'accord.
Il y a quand même un certain nombre de moutons en France. Il y a même, dans le Diwa, des moutons, en veux-tu, en voilà. Alors, que fait-on de cette laine ?
Ben, c'est un peu le fond du problème, en fait. Du coup, la laine n'est pas exploitée. Elle est soit achetée à très bas coût, elle est vendue d'ailleurs en grande partie en Chine, où elle est utilisée pour être transformée, mais du coup, c'est pas valorisé, en tout cas ici, pour les éleveurs. En fait, dans les codes, elle est quand même inscrite comme déchet avec les os et la corne, et elle est en partie brûlée aussi. Donc, on a vraiment abandonné cette ressource, et d'une manière générale, ça s'inscrit dans le contexte où, en France, on ne produit plus de textiles, où l'ensemble des manufactures et industries qui étaient liées au textile sont vraiment quasiment disparues. Il reste quelques fragments, mais ça reste vraiment très faible. Et du coup, cette laine, pour pouvoir la valoriser, il faut effectivement la récolter et la valoriser dès la source, après la tonte.
Alors justement, on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille là-dessus. Véronique, est-ce que tu pourrais nous transmettre un petit peu ton expérience ?
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la laine il y a 3-4 ans, ici en arrivant dans le Diwa, ma première démarche, ça a été d'aller vers les éleveurs et de recenser un peu les différentes qualités de laine qu'il y avait. Parce que il y a beaucoup d'éleveurs donc qui ont de la préalpe, mais c'est pas la seule race. Ou alors la mérinos qui est reconnue comme une laine vraiment pour la filière laine. Et en fait, les éleveurs, quand j'allais les voir, la plupart me disaient « Bon, bah, prends ce que tu veux dans la laine noire, parce que la laine noire n'est pas récoltée. Moi, ça va soit au compost, soit c'est brûlé. » Et donc, j'ai essayé de recenser un peu comme ça les différentes variétés. Et donc, de savoir, selon la variété, à quoi elle pouvait être utilisée, comment elle pouvait être valorisée, si elle allait être plus intéressante, si elle a du gonflant pour faire des coussins, de la matelasserie, de la couette à l'ancienne, si c'était une laine qui n'a pas de longues mèches ou n'est pas douce, qui ne va pas être exploitable au filage, ça peut être intéressant au feutre. Et après, moi, je me suis beaucoup intéressée au feutre et c'est là où je me suis mise à mélanger les qualités des différentes laines. Voilà, une laine qui est courte mais douce, qui va être mélangée à une laine un peu plus rêche mais qui a de la fibre longue, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Et rien que dans le feutre en lui-même, on va pouvoir modeler des objets qui vont être un peu rigides comme du tapis, qui n'ont pas besoin d'être doux mais qui ont besoin d'être résistants, ou bien prendre la qualité de la laine qui est plutôt type mérinos, très douce, pour être contre la peau. Donc moi j'étais quand même choquée de voir que toute cette matière qui est pour moi une matière qui a vraiment de la valeur, qui est dans ma culture familiale, il y a toujours eu de la laine, et bien que tout ça partait au fumier, ou alors qu'effectivement sur les chantiers de tonte, tout est mélangé avec les ongles, la paille. Et en fait, comme la laine part loin et elle n'est plus travaillée localement, on ne sait plus comment la travailler. Donc il faudrait qu'on reprenne au départ sur un chantier de tonte, vraiment trier les qualités de laine, et à partir de là, on pourrait remettre quelque chose de tout petit en place. Après, sur le Diwa, on n'a pas de microfilature. Il y a eu un projet qui est resté en suspens, qui peut-être donnera le jour dans les prochaines années. Mais en tout cas, pour l'instant, quand on veut laver la laine, carder, transformer en fil, il faut qu'on aille se raccorder aux outils qui sont, alors pas vraiment locaux à l'échelle du département, mais qui sont quand même nationales ou des pays d'à côté en Europe. Donc il faut se raccorder à ces outils qui sont encore existants, mais si on s'en sert de moins en moins, ils vont péricliter complètement.
Lesquels sont ce ?
En France, il reste quelques unités de lavage, parce que c'est la première étape. Une fois que la tonte a été réalisée et que le tri de la laine a été fait, ça c'est fondamental en fait, cette histoire de tri que Véronique a soulevée. Quand on mélange toute la laine qui sort de la tonte sans déborder, sans enlever les crottes, sans enlever la paille, et qu'on met tout dans le même ballot, la laine est payée, selon les types de laine, mais entre 10 et 50 centimes d'euros le kilo, au plus bas prix. Par contre, si on trie, qu'on fait un lot de laine pailleuse, de laine avec des crottes, avec des matières organiques, d'un côté qui sera payée 10 centimes d'euros le kilo, et que de l'autre côté, on fait un lot avec les laines qu'on a débordées, seulement les mèches les plus longues qui sont sur le dos, sur les flancs, et bien celle-ci, elle va être payée 1, 2 euros le kilo. Donc déjà, c'est la première, vraiment, l'étape la plus importante qui peut être faite dès l'échelle de l'animal, quoi. Et ensuite, l'étape suivante, c'est le lavage de la laine, qui est une étape qui nécessite beaucoup d'eau et qui se fait dans des unités de lavage spécialisées. Donc des unités à gros tirage, il en reste quelques-unes en Europe, en Italie, en Bulgarie, en Roumanie, en Espagne, en Angleterre. Je crois que s'il y en a 7. Celles-là, elles sont capables de laver 20 à 30 tonnes de laine par jour. Sinon, il y a des unités beaucoup plus petites, et ça, il en reste plusieurs en France. La filature Laurent dans la Haute-Loire, à Saugues, la filature de Niau en Ariège, la filature de Chantemerle dans les Hautes-Alpes, le lavage du Bourbonnais...
C'est dans l'Allier.
C'est dans l'Allier. Ouais. Le lavage du Bourbonnais dans l'Allier. Voilà, quelques unités. Et ensuite, une fois que la laine est lavée, là, on va pouvoir s'orienter vers les deux grands circuits de travail de la laine. D'un côté, le circuit cardé, de l'autre côté, le circuit peigné. Donc le circuit peigné, c'est pas à peine d'y penser en France, il reste plus une seule unité, c'est fini. La plus proche, elle est en Italie, il reste quelques unités de peignage en Italie, dans le bassin de Biella, dans le canton de Biella, entre Milan et Turin. Sinon, en France, il nous reste le circuit du cardé, avec quelques filatures qui travaillent encore... selon ce circuit, et qui vont permettre de faire soit de la nappe cardée qui peut être ensuite destinée au feutre ou à la matelasserie, soit du fil cardé. Et donc, Véronique, moi, il me semble que tu vas faire filer chez Terrad, c'est ça ?
Alors,
dans la Creuse.
L'année prochaine, j'en serai au fil. En fait, jusque-là, ça me prend beaucoup de temps. Je suis partie vraiment de la toison brute avec mes petits jouets à la maison, ma cardeuse. Il a fallu que j'aille vraiment dans la matière au départ pour comprendre toute la démarche et la transformation. Et là, petit à petit, à force d'aller d'une année sur l'autre, voir des éleveurs, cibler un peu, l'année prochaine, j'en serai à faire du fil. C'est-à-dire que cette année, j'ai rencontré un éleveur qui a des solognottes et qui en est à mettre les toisons superbes de ses bêtes au pied de ses arbres pour faire un apport en azote au pied de ses arbres. Donc lui, ça lui coûte plus cher d'acheter de l'azote que de recycler sa laine. Et ça la valorise déjà puisqu'elle est recyclée. Mais du coup, moi, je vais lui échanger des toisons qui ont été triées, du déchet de toison pour moi qui ne sera pas utilisable pour la laine, en échange de ces belles toisons solognottes. Et là, j'aurai un lot qui sera assez conséquent cette année, qui sera plus d'une centaine de kilos, pour aller le faire laver et le faire filer.
Et du coup, je crois que ce qui est intéressant, c'est que là, Véronique, elle soulève un point fondamental qui est celui des échelles auxquelles on travaille dans la laine. Si on reste dans le système intégralement manuel, on peut travailler la fibre du début à la fin. Par contre, faut pas s'illusionner, on ne fera jamais plus maximum ce qu'on peut faire, c'est 10 kilos par an de travail de la laine, au grand maximum. Par contre, dès qu'on passe à une échelle légèrement supérieure, en fait, on atteint un problème de seuil. C'est super difficile de laver 2 kg de laine, de faire laver et transformer 2 kg de laine, 10 kg de laine, 20 kg de laine. Ce sont des unités trop petites. Et ça, Vincent, il pourra en parler parce que lui, c'est justement pile dans ces histoires de seuil pour la transformation.
Moi, je suis dans un seuil intermédiaire. J'ai un troupeau de 170 brebis, donc ça me fait une quantité de 200 kg de laine brute à peu près par an, un peu plus. Et donc, je suis dans un créneau où les filatures traditionnelles acceptent encore de travailler. Donc, ça me fait une centaine de kilos de laine propre. Et en dessous de 100 kilos, les filateurs traditionnels commencent à faire la grimace parce que leurs machines ne sont pas bien conçues pour ça et toutes leurs installations.
Après, à toute petite échelle, justement, ce qui est faisable et qui y a une certaine demande, surtout dans notre région, c'est de transformer de façon domestique, comme ça se faisait à l'ancienne, et de réapprendre à laver la laine en petites quantités, comment on traite en fait cette matière et comment on la transforme. Donc là, c'est plus de la démonstration sur des festivités comme la transhumance, les foires champêtres, etc. Ou bien les ateliers de transmission, de l'initiation au feutre ou des petites formations pour après un usage plus du loisir créatif ou un tout petit usage domestique, une petite production personnelle.
Alors, entre le travail à toute petite échelle, tel que l'a décrit Véronique, et les grosses filatures qui restent en Italie, y aurait-il un échelon intermédiaire ?
Eh bien, l'échelon intermédiaire, c'est la mutualisation. C'est l'idée de se regrouper, de travailler ensemble pour faire des lots homogènes qui peuvent rentrer dans le circuit industriel, au niveau le plus bas des circuits industriels, mais y rentrer quand même pour pouvoir exploiter toute la filière qui est déjà en place, avec les lots les plus petits possibles, mais qui rentrent quand même dans ce système. Et ça, ça part d'un travail d'éleveur, ou en tout cas d'artisan, d'intermédiaire, qui se mettrait ensemble et qui mettrait des lots ensemble. Pour ma part, c'est ce que je fais avec d'autres éleveurs. En fait, on regroupe nos laines en les triant, en s'accordant au départ sur des critères de sélection de cette laine, des modalités de tri. Et en fait, on a deux circuits, justement, pour explorer au mieux la filière qui reste encore en place. D'un côté, on va aller avec trois autres éleveurs, on va faire des lots assez petits qui vont partir dans le circuit cardé en France. Donc on fait laver à Saugues, ensuite on fait filer chez Terrade dans la Creuse et on récupère donc des fils cardés de plusieurs couleurs, enfin liés aux différentes teintes naturelles de nos bêtes. De l'autre côté, on s'est regroupé avec huit autres éleveurs du quart sud-est de la France. Et là, on a réussi à constituer le lot minimum qui peut aller dans les usines de peignage en Italie, c'est-à-dire 2 tonnes. Donc à Biella, en Italie, ils sont habitués à laver 20 à 30 tonnes par jour. Et ça, c'est un peu leur unité de base de ce qu'ils traitent. 2 tonnes, c'est la quantité minimale qu'ils peuvent accepter pour faire tourner leur machine. Et du coup, là, en Italie, on fait faire du fil peigné, voilà, entre 9-10 éleveurs, je crois qu'on est, avec ensuite une gamme de produits finis assez diversifiée. On s'accorde tous, donc il y a un gros travail de mutualisation, de réflexion sur les différents produits qu'on veut. Et puis à la fin, chacun récupère, en fonction du lot qu'il a mis au départ, du fil de différentes tailles, du fil teint ou non teint, du ruban peigné, voire des articles finis qu'on va ensuite commercialiser chacun de notre côté avec nos outils de commercialisation. J'en profite pour placer ça. En fait, les CIVAM de la Drôme ont proposé à des éleveurs, surtout du sud de la Drôme, de se retrouver début novembre pour essayer de voir aussi s'il y a d'autres opportunités de mutualisation, en fait, voilà, pour valoriser ensemble la laine.
Ça suscite de l'intérêt parmi les éleveurs ?
Oui, ça suscite pas mal d'intérêt. En fait, c'est vrai que quand on commence à en parler, mais ça, Véronique pourra abonder dans ce sens-là, c'est pas facile pour un éleveur de jeter au compost une partie de sa production. En fait, même si elle a plus de valeur sur le marché, ça reste quelque chose que les bêtes nous donnent, en plus de la viande, en plus du fumier. Et jeter ça, c'est pas satisfaisant quand on est éleveur. Et en fait, de voir que d'autres ont impulsé des fonctionnements différents, des systèmes de valorisation, ça donne confiance dans le fait que oui, en fait, cette laine, elle a vraiment une valeur et on peut en faire quelque chose et on peut lui donner... On peut aller plus loin dans la valorisation.
Ouais, moi j'abonde là-dessus et je me demande même si pour les éleveurs ovins actuellement, ils peuvent pas se dire que finalement la même chose va arriver avec leurs agneaux qui est arrivée avec leur laine pour leurs parents. C'est-à-dire que, étant donné que les cours de l'agneau diminuent, au bout du compte, on pourrait imaginer que plus faire non plus de la viande, quoi. Donc, s'il y a un espoir de réutiliser la laine, c'est parce que des éleveurs se réapproprient la totalité de la chaîne économique pour aller trouver le consommateur.
Ben c'est sur ces arguments très intéressants sur la pertinence de la renaissance d'une filière laine qu'on va s'arrêter ici. Vous avez bien compris qu'on n'a pas épuisé totalement le sujet de la renaissance éventuelle d'une filière laine. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre biotope avec Marie, Margot, Vincent et Véronique. Merci à tous.
Merci.
Merci Louis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, oui.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Pour complémenter ce sujet sur la filière laine, nous avons souhaité interviewer Birgit Kirkham, membre de la Toison d'Art, cette association qui organise la fête de la laine tous les ans à Die, entre autres, et qui est aussi feutrière. Birgit, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter les activités justement de cette association, la Toison d'Art ?
Basée à Cré, elle est composée en fait de professionnels des métiers textiles. Elle a été créée par des éleveurs et des artisans il y a 22 ans, en 92, pour organiser des manifestations en fait comme des marchés ou des expositions, donc pour permettre à ces artisans et éleveurs de faire connaître leur activité et de vendre leur production. Et donc c'est ce que fait encore aujourd'hui cette association. Donc c'est nous-mêmes, les membres, les artisans et les éleveurs, qui organisons des événements comme la fête de la laine, des marchés en été et à l'automne. En général, intitulé marché de la laine, mais en fait, toutes les fibres naturelles ont leur place là-dedans. Voilà.
Ce sont des gros événements. Enfin, en tout cas, la fête de la laine n'est pas un petit événement.
Oui, la fête de la laine, c'est le plus gros événement qu'on organise. Donc là, il y a en moyenne 6000 visiteurs. C'est sur un week-end, le deuxième week-end de février en général. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde. Après, les autres événements ont une envergure moindre, voilà, parce que sont différentes. En été, on organise des marchés de la laine. Donc pour donner une idée, à la fête de la laine, on est une cinquantaine d'exposants. Sur les marchés de la laine, on est entre 15 et 25 exposants, donc c'est plus petit, c'est en extérieur et ça s'adresse à un public qui est plus, voilà, le public de l'été, les gens qui habitent sur place et les visiteurs, touristes, etc. Et puis on organise quelques autres événements en salle où on s'exporte un petit peu du sud-est, donc notamment en Alsace et en Bourgogne. Voilà, où là c'est encore un peu différent, mais c'est toujours plus petit que la fête de la laine, qui est notre événement phare.
Alors, pour organiser tous ces événements, comment vous y procédez-vous ? Est-ce que c'est une association qui a des moyens financiers dignes de ce nom, qui a beaucoup d'adhérents ? Vous avez beaucoup de bonne volonté ?
Alors, on a beaucoup, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'huile de coude, comme c'est le cas chez tous les artisans. Mais en fait, on a quelques financements par le Conseil Général, la mairie de Cré pour la fête de la laine, et puis quelques offices du tourisme pour les animations en été. Mais la majeure partie du financement, en fait, est de l'autofinancement parce que voilà, les artisans qui viennent exposer à créer ou sur les marchés, ils payent leurs cotisations et le stand. Et du coup, c'est surtout avec ces moyens-là qu'on finance le fonctionnement de l'association. Les subventions viennent essentiellement payer notamment des animations ou à créer en partie les frais pour la salle. Puis après, c'est nous-mêmes, en fait, chaque membre actif s'implique en fait en organisant lui-même un marché, par exemple, en contactant les mairies, etc., en s'occupant de toute la logistique, ou en étant membre du bureau avec tout le travail administratif qui s'attache. On n'a pas de salariés, voilà, on fait ça vraiment par nous-mêmes.
Comment évalueriez-vous la portée de votre action? Est-ce que vous êtes satisfait de votre impact, je dirais, sur cette filière laine?
Alors, je pense que dans l'absolu, on est content parce que voilà, un événement comme la fête de la laine, il est plus unique en France, mais il a inspiré d'autres événements de cette envergure-là, mais il est un peu le premier. Il a servi comme modèle et il marche toujours bien. Et il permet à beaucoup de petits professionnels de la filière laine de gagner leur vie et de faire connaître leur activité, voilà, à travers des animations, etc. Donc ça, c'est positif. Après, c'est un secteur où les entreprises sont petites. On est souvent en individuel ou avec peu de gens. Donc ça reste quelque chose de fragile qui est jamais acquis, en fait. Mais par contre, humainement, c'est très riche et ça fait ses preuves parce qu'on arrive à se mettre en réseau et à échanger, à fonctionner ensemble humainement et économiquement grâce à une structure comme la Toison d'Art. Ça oui, je dirais que l'action est plutôt positive.
Accepteriez-vous de donner les coordonnées de votre association pour que des gens qui s'intéresseraient à votre secteur d'activité vous contactent?
Tout à fait. L'association s'appelle la Toison d'Art, au 4 rue des Vieilles Prisons, 26 400 Cré. Un numéro de téléphone, c'est le 04 75 76 43 76. Et on a un blog qui donne un peu l'actualité, où on trouve aussi la liste de tous les membres, la Toison d'Art, tout attaché, sans apostrophe, sans rien, .blogspirit.com.
Eh bien, Birgit Kirkham, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.